toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Terre, l'émission qui décrypte les enjeux globaux sur France Culture. Comme chaque mercredi, nous sommes ensemble de 14h à 14h56, en direct sur les ondes comme sur Internet, pour ce rendez-vous géographique avec les chercheurs qui arpentent le globe. Aujourd'hui, focus sur les campagnes. En effet, 47% des terriens vivent à la campagne. Oui, 47%, c'est énorme me semble-t-il. Et ce fait de premier ordre est bien souvent occulté par cette urbanisation tendancielle du monde dont on parle beaucoup et tant. Alors, je vous propose d'appréhender ce fait majeur par quelques questions. Quel sens cela a-t-il de vivre à la campagne dans un monde globalisé et très connecté? Les ruraux sont-ils en premier lieu des agriculteurs ou bien toute personne qui habite à la campagne est-il un rural? Et ce, quel que soit son métier. Et bien entendu, on essaiera de répondre à cette question à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, échelle mondiale, après tout, les paysans de Chine, d'Inde, d'Europe, voire d'Afrique, partagent-ils plus de points communs ou de différences? Vivre à la campagne dans le monde d'aujourd'hui, c'est bien le sujet de Planète Terre cette semaine. Alors, élément de réponse avec mes deux invités qui sont tous deux géographes ruralistes, Ségolène Darly qui est maître de conférence à l'université Paris 8 et Jean-Louis Chaléard qui est professeur à l'université Paris 1. Bonjour à tous deux.
Bonjour.
Et merci d'être là. Alors, première question peut-être qu'on a déjà dû vous poser très très souvent. Comment est-ce qu'on peut délimiter et caractériser la campagne aujourd'hui, surtout si on se place à l'échelle mondiale, comme vous avez bien voulu qu'on le fasse dans cette émission de Planète Terre? Ségolène Darly.
Bon, je pense qu'on a beaucoup de représentations partagées de ce que c'est que la campagne. Généralement, il y a trois grands critères qu'on retient pour savoir si oui ou non on est à la campagne. La première, c'est celle, bien sûr, de la place importante et majoritaire des espaces cultivés. Donc, la place de l'agriculture importante dans la formation des paysages.
On n'y échappe pas à l'agriculture. Hein.
Ça, voilà, l'agriculture, l'exploitation des ressources pour la production du vivant, l'exploitation du vivant, la place de l'agriculture, c'est quelque chose d'important qui permet souvent de discriminer. On retient aussi souvent le critère de discontinuité du bâti. Hein, on n'a pas des grandes agglomérations de bâti. Bon, ça, bien sûr, ça dépend beaucoup des échelles, mais à l'échelle du grand paysage, on a plutôt un bâti dispersé. Et puis, un critère aussi important qui est celui des faibles densités relatives, donc un critère par rapport au peuplement.
C'est-à-dire le
nombre d'habitants. Maximum.
Le nombre d'habitants par kilomètre carré est faible.
Voilà, généralement, est faible par rapport aux endroits où il est le plus élevé. C'est pour ça qu'on parle souvent de densité relative, puisque bien sûr, le seuil de la densité maximale va varier en fonction des pays. On dépasse rarement la centaine d'habitants au kilomètre carré. Bon, en France, en moyenne, c'est à peu près 50-60 habitants par kilomètre carré en moyenne.
Donc, place de l'agriculture, importance de la discontinuité du bâti, faible densité, c'est ça pour vous, c'est Ségolène Darly, les trois grands critères qui permettent de dire là, je suis à la campagne ou bien je n'y suis pas.
Alors, c'est généralement ce sur quoi on s'accorde en termes de représentation.
Alors,
après,
Jean-Louis
tracer
Chaléard,
la ligne, c'est compliqué.
C'est compliqué. Jean-Louis Chaléard, est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, bon, les critères sont à la fois des critères paysagers, densité démographique, fonctionnelle. Bon. Ce que j'ajouterais peut-être, c'est que souvent il y a des définitions statistiques qui sont données, notamment par les grands instituts statistiques nationaux. Et c'est un peu là que ça se complique, parce que la campagne, dans ces cas-là, est souvent définie par défaut. C'est-à-dire qu'on définit l'urbain, en général par l'agglomération des individus, c'est-à-dire plus de 5 000 ou plus de 10 000 habitants en Afrique, ça dépend des pays. En Côte d'Ivoire, c'est par exemple plus de 5 000 habitants agglomérés. Et aussi par les fonctions,
c'est-à-dire... Oui, plus de 5 000 habitants agglomérés, on est en ville. Moins de 5 000 habitants,
on est à la campagne. Avec souvent un critère supplémentaire, et qui revient à ce que disait Ségolène sur, sur l'agriculture, c'est que on est en ville si on a moins de 50% des actifs qui ne travaillent pas dans l'agriculture.
Ah, et ça, vous, ça vous paraît un critère important, ça? Parce qu'évidemment, en général, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, bon, bah, habiter à la campagne, vivre à la campagne, c'est pas forcément être agriculteur. Et ça, j'ai l'impression qu'en Europe, en tous les cas, c'est un grand débat.
C'est un critère qui est important dans certains pays du Sud, notamment en Afrique, parce qu'on va avoir des agglomérations de 10, 20 000 habitants, des fois plus, où la majorité de la population vit d'activités agricoles. Et ça pose le problème, est-ce que ces gens qui sont tous des agriculteurs, on peut considérer qu'on est dans une ville? Ce sont des, en fait des agglomérations rurales, comme il y en a eu d'ailleurs, on en trouve autrefois dans le sud de l'Europe, en Andalousie par exemple.
Oui, mais alors là, dire ça Jean-Louis Chaléard, est-ce que c'est plutôt dire que finalement, aujourd'hui, même la campagne est urbanisée? Ou est-ce que c'est dire que dans certains pays en voie de développement, ceux d'Afrique auxquels vous pensez, que vous allez peut-être nous préciser, l'urbanisation est en trompe-l'œil, puisqu'en fait, elle est toujours informée par la ruralité. Ça marche dans quel sens, votre remarque?
Je suis un peu embêté de vous répondre que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois, l'agglomération des individus fait que les choses changent, parce que vous avez des magasins qui vont être installés. On va pouvoir mettre des centres de santé, notamment, je pense à un pays comme la Côte d'Ivoire ou un pays comme le Sénégal. Il est évident qu'on peut mettre des infrastructures dans des grosses agglomérations parce que l'agglomération d'individus fait qu'on peut créer des services. Mais en même temps, dans certains cas, ce ne sont pas des villes, des agglomérations comparables à ce qu'on appelle une ville, en ce sens que il n'y a pas d'industrie, il y a très peu quand même de secteur tertiaire. C'est essentiellement de l'agriculture. Ce sont plutôt des bourgs, voilà.
Ah oui, donc vous aussi, d'une certaine façon, par un autre biais, comme Ségolène Darly, vous en revenez quand même à dire que parmi les critères qui font qu'on est à la campagne, la place de l'agriculture est centrale. Excusez-moi, je vous repose cette question parce que j'avais l'impression, en préparant cette émission, que, en tous les cas, s'agissant de l'Europe, d'accord, il y avait, une des tendances de la recherche consistait à dire que finalement, il y avait comme un découplage entre l'agriculture et la campagne. Mais peut-être que du coup, c'est parce qu'en fait, il y a des campagnes. Ségolène Darly.
Oui, non, mais c'est vrai que dans les régions où le poids des actifs agricoles est beaucoup moins important, du fait de la trajectoire de modernisation des agricultures...
Ça, c'est en Europe de l'Ouest en particulier.
Plutôt Europe de l'Ouest, Amérique du Nord, les pays anciennement industrialisés.
En France, par exemple, j'ai lu quelque part que 17... Enfin, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais en tout cas, c'est pas plus de 20% des actifs, des personnes qui travaillent, qui ont pas de population active et qui vivent à la campagne, seuls moins d'un cinquième des actifs vivant à la campagne en France sont agriculteurs.
C'est sûr, par rapport à la population totale, la part des agriculteurs, c'est 2%.
En France.
Donc en France et globalement en Europe. En France, c'est certainement encore moins. En moyenne, en Europe, l'Union européenne des 27, c'est 2%. Donc c'est effectivement très faible. Quand je parlais du poids de l'agriculture, c'est le poids de l'agriculture dans le paysage. Ça reste quand même une activité qui structure l'espace et l'organisation de l'espace. Ensuite, bien sûr qu'en termes de peuplement, d'activité, on est dans des campagnes où le nombre d'agriculteurs diminue, le nombre de travailleurs agricoles diminue, mais c'est pas pour autant qu'il y a moins de monde qui vivent dans les campagnes. Et là, effectivement, du coup, je pense qu'on voit arriver la question de la différenciation des campagnes, avec des campagnes au sud, souvent au sud.
Au sud, vous voulez dire dans les pays en voie de
développement. Dans les pays du sud, voilà. Des suds encore très rurales, et cette ruralité est encore très agricole. Dans les régions européennes ou Amérique du Nord, la population est beaucoup moins rurale, même si elle a tendance à augmenter, c'est-à-dire qu'il y a un repeuplement de certaines de ces campagnes, même européennes. Mais ces nouveaux ruraux ne sont pas agriculteurs. Donc on a une recomposition des peuplements. Il y a des dynamiques de repeuplement, mais pas par l'augmentation du nombre d'agriculteurs, à l'exception de quelques cas dernièrement, notamment l'Espagne, la Grèce, des pays qui ont subi des fortes crises économiques, où on a vu l'espace rural et dans sa dimension agricole, devenir espace de refuge, en fait, pour des populations qui subissent la crise. Et donc là, on a une légère augmentation des populations agricoles.
Jean-Louis Chalère, alors sur cette différenciation des campagnes, puisque peut-être qu'il faut en fait parler au pluriel des campagnes et non pas de la campagne, surtout à l'échelle du monde.
Oui, alors de toute façon, partout, me semble-t-il, le critère paysager et spatial est important. C'est-à-dire que l'agriculture n'est pas forcément dominante chez les actifs, ce qu'a souligné Ségolène, mais dans les paysages et dans l'occupation de l'espace, elle l'est. Effectivement, je crois qu'il y a des grosses différences entre les pays du Nord, ou anciennement dit industrialisés, et les pays du Sud, ou pays en développement, parce que la part de la population qui vit de l'agriculture n'est pas du tout la même. Donc on n'a pas du tout les mêmes composantes, même si aujourd'hui, dans certains pays du Sud, on voit des évolutions très rapides vers des modèles qui se rapprochent de ceux des pays du Nord.
Par exemple ?
Je pense à certaines campagnes périurbaines, des campagnes de la Chine orientale, de certains secteurs qu'on va trouver aussi en Amérique latine, où on a des campagnes qui sont, de plus en plus, vous avez d'autres activités, notamment l'industrie, le tourisme qui se développent, vous avez une diversification des activités qui font que la population active se diversifie, alors que jusqu'à une date récente, on était à, j'ai pas le chiffre exact, mais mettons à plus de 80% de population qui était une population active agricole. Ce qu'on trouve encore largement en Afrique, mais qu'on trouve moins, par exemple, maintenant, en Asie et dans certaines parties de l'Amérique latine.
Et en Inde, vous diriez que cette évolution est également cours en Inde. J'avais l'impression qu'entre l'Inde et la Chine, il y avait un peu je sais pas s'il faut parler d'un décrochage ou en tous les cas d'un décalage par rapport à ce type d'évolution.
C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est qu'en Inde, clairement, on reste avec une population rurale qui est extrêmement importante. C'est-à-dire une population qui dépasse, qui est, actuellement doit être de 70% de population rurale pour 30% de population urbaine.
Oui, donc il faut vraiment.
Donc c'est énorme. C'est-à-dire quand on parle de 47% de population rurale dans le monde, il faut bien voir que la Chine, l'Inde, les pays d'Asie pèsent d'un poids énorme.
Alors donc, vous voulez dire là, parce que là vous avez dit 70% de la population indienne est encore rurale,
oui.
Et en Chine c'est encore 70%.
Non, en Chine j'ai pas vous dire de bêtises, j'ai pas le chiffre.
En tout cas c'est toujours la majorité de la population qui est encore rurale.
C'est en train d'évoluer justement depuis les réformes, ça évolue très très vite. C'est pour ça que je veux pas vous donner de chiffres parce que ça évolue très très vite en Chine. Il y a une très grande croissance
urbaine.
Et donc c'est en train d'évoluer rapidement en Chine. Et puis en plus, après, on retombe sur au fond de votre question du début, une question de définition de ce qu'on appelle ville et campagne. Et les critères n'étant pas les mêmes dans tous les pays, c'est très difficile de comparer des statistiques qui ne représentent pas tout à fait la même chose.
Voilà. Mais en tout cas, qu'est-ce que les chercheurs que vous êtes tirez comme conclusion, ou quel sens vous donnez au fait que dans certains pays comme l'Inde c'est quand même un très grand pays émergent, du point de vue démographique c'est évidemment un géant mondial, le fait que 70% de la population de l'Inde vive à la campagne, est-ce que vous pensez que ça doit nous amener à reconsidérer un peu la vision qu'on peut se faire du monde, Ségolène Darly?
Alors, je voulais juste donner aussi les chiffres en valeur absolue, parce qu'on les donne en pourcentage depuis tout à l'heure, mais les chiffres en valeur absolue sont assez impressionnants. On parlait de 47% aujourd'hui, ça fait 3,5 milliards de personnes.
Hein,
et en 1960, alors bien sûr en 1960, il y avait 67% de ruraux, mais ça faisait que 2 milliards et quelques de ruraux. Donc
la
on est passé
entre
la proportion baisse parce que la population urbaine croît plus vite que la population rurale, mais on a quand même gagné 1 milliard, plus d'un milliard dans les
énorme espaces
ruraux entre 1960 et aujourd'hui. Donc, et en Inde, 70%, ça revient à 800 millions de personnes. Donc c'est quand même un des chiffres très très importants. Et c'est vrai que le cas de l'Inde est particulier parce que c'est une population rurale qui est encore très agricole. Et c'est la solution, c'est tout cas c'est la trajectoire qu'a pris l'Inde pour gérer la question alimentaire, de la sécurité alimentaire, c'est finalement trouver un modèle de développement rural basé sur le travail agricole et sur le fait que la population rurale se nourrit de son agriculture. Alors, bon, c'est un peu plus complexe, bien sûr, mais c'est ce qui différencie aussi, ce qui rend le cas de l'Inde si particulier.
Et donc, du coup, je reviens à ma question, mais qui est peut-être une question un peu, je sais pas comment dire, un peu naïve ou peut-être beaucoup trop globale, quoi. Enfin, en tout cas, c'est une question d'étonnement sincère. Est-ce que, dès lors qu'on réalise l'importance des populations rurales, est-ce que, du coup, vous estimez, bon, en plus, vous êtes l'un et l'autre géographe ruraliste, comme on dit, bon, ça fait un peu désuet hein, aujourd'hui de dire ruraliste, mais enfin bon, c'est une discipline très importante en géographie et dans la recherche en sciences humaines et sociales. Est-ce que vous pensez que du coup, on devrait, dans ces pays d'Europe ou d'Amérique du Nord où on est tellement, comment dire, travaillé par l'urbanisation, est-ce que ça devrait nous amener à regarder le monde autrement ? Enfin, si cette question vous paraît recevable, Jean-Louis Chaléard.
C'est difficile de répondre parce que les campagnes des pays du Sud sont très différentes des campagnes des pays du Nord. Et la vie à la campagne comme la vie en ville est quand même différente. Ce qui freine aussi, je vais dire l'exode rural, mais j'aime pas ce mot justement, puisque comme l'a dit Ségolène, la population rurale en fait augmente dans les pays du Sud. Ce qui freine ces migrations des campagnes vers les villes, c'est quand même les difficultés de la vie en ville, le chômage, la violence, le coût de la vie. Pour des populations pauvres, c'est très difficile. Et du coup, d'ailleurs, on a vu dans certains pays en crise des mouvements d'exode urbain. C'était le cas en Côte d'Ivoire dans les années 80-90, où les gens ont quitté les villes pour aller à la campagne parce que la vie était trop difficile en ville. Donc c'est un peu difficile de comparer avec les pays du Nord. Mais ce que ça montre quand même, c'est que sous certaines conditions, effectivement, la vie, est plus vivable à la campagne qu'en ville.
Ah, vous iriez jusqu'à dire ça?
Dans certaines campagnes, oui. Parce que vous avez, aujourd'hui, vous avez la diffusion d'un certain nombre de services qui n'existaient pas avant la campagne, mais qui changent en partie la ville. Vous avez la diffusion du téléphone portable qui change beaucoup de choses dans les campagnes, qui font que dans un certain contexte, les gens vont préférer vivre à la campagne plutôt qu'en ville. Moi, j'ai fait des enquêtes dans les Andes, au Pérou, par exemple, et j'ai été très frappé par le fait que les gens connaissaient la ville, ils avaient été en ville, ils avaient des enfants qui travaillaient en ville, mais eux disaient qu'ils préféraient, que s'ils pouvaient choisir, ils préféraient vivre à la campagne. En Côte d'Ivoire, comme un autre exemple, les gens qui sont à la retraite, très souvent, quand ils le peuvent, retournent dans leur village où ils ont une petite plantation de café cacao, alors qui va leur permettre de mieux vivre qu'en ville, c'est vrai, mais au fond, ils préfèrent vivre à la campagne à cause d'un certain nombre de désagréments de la vie urbaine dans les pays, en tout cas dans les pays pauvres.
Alors, pour le plaisir de vous porter la contradiction, Jean-Louis Chaléard, je voudrais qu'on écoute tous ensemble un court extrait de l'émission documentaire phare de France Culture sur les docks qui avait été diffusé le 4 mars 2008. On entend un monsieur qui s'appelle Hubert Barrault et qui parle de sa difficulté en tant que néo-rural à se faire accepter.
Tu reviens, Hubert, d'être allé chercher pour les bêtes un voisin paysan. Ouais. Et j'imagine c'est comme ça aussi que se fait l'accès à la terre, non ?
Bah ouais, c'est un petit peu comme ça qu'on... Enfin, c'est par le biais de connaissances de toute façon, parce qu'il s'agit pas de mettre des petites annonces dans les canards du coin pour accéder à un bout de terrain, mais... Après, c'est pas évident non plus de se faire accepter par la population locale quand on arrive de nulle part, quand on est jeune, quand on est connu de personne. Alors après, il faut du temps, ça se fait petit à petit, et... Tu t'entends bien avec l'ancien, tu vois, il est le premier à te filer des coups de main, même sans que tu aies besoin de lui demander, c'est lui qui va te proposer, et puis... Et puis en fin de compte, tu t'entends reprocher après, par les générations un petit peu plus en dessous, que le père, il en fait trop pour toi. Quitte à en venir même à de l'exagération et des mensonges aussi, à te faire passer pour je sais pas qui, alors qu'il en est rien. Et finalement, comme toi, tu viens d'arriver, c'est toi qui as tort de toute façon, quoi. Les gens sont bien en place ici depuis des générations, ils se connaissent depuis tout le temps. Et puis après, ils font dire ce qu'ils veulent, quoi.
France Culture, Planète Terre, Sylvain Kahn.
Arrêtons-nous quelques instants sur le cas de la France, si vous le voulez bien. Ségolène Darly, qu'est-ce que ça vous évoque, ce reportage? Vous allez me dire, bon, bah oui, c'est une opinion parmi tant d'autres, c'est pas représentatif, ou bien...
Bah oui, enfin, ça donne un exemple d'une trajectoire de retour à la campagne, qui est là le retour à la terre, hein, la volonté d'accéder au métier d'agriculteur, qui n'est pas la trajectoire la plus fréquente, hein, dans les flux de peuplement, les flux de population de la ville vers la campagne. Et c'est vrai qu'on est dans un contexte, alors là on a un contexte français, d'une profession agricole qui protège justement ses acquis et d'une profession agricole qui est basée sur le modèle familial, le modèle de la maîtrise des ressources de production par les familles agricoles. Et donc, il y a toujours cette difficulté, d'une part, à faire rentrer dans la profession des nouveaux professionnels, mais qui ne sont pas issus de familles agricultrices et qui, avec qui il faut partager les ressources de production. Donc là, il y a, on voit les héritages, hein, d'une volonté qu'on retrouve dans beaucoup de campagnes des travailleurs agricoles de maîtriser leur outil de production. Et alors, bien sûr, quand un nouveau venu arrive et avec qui demande qu'on partage avec lui les ressources de production, bah ça ne se fait pas tout seul. Hein. Effectivement, il y a toute une phase d'approche, d'observation. Est-ce qu'on est proche du point de vue des techniques qu'on veut mettre en œuvre? Je pense que les tensions ne sont pas forcément entre nouveaux venus et anciens. Mais il y a aussi quel modèle d'agriculture vous veut implanter, est-ce que c'est très différent de ce qu'il y avait avant? Donc ça remet aussi en cause des idées, des modèles qui ont été adoptés par les générations précédentes. Mais ça, ces tensions, on les retrouve.
Le fameux modèle productiviste français et européen promu par la politique agricole commune, par exemple.
Par exemple, mais on retrouve ces tensions même au sein de familles, hein, entre les anciennes générations et les nouvelles générations. Là, on retrouvait finalement cette tension-là, peut-être plus générationnelle, que nouveaux anciens.
Jean-Louis Chaléard, Ségolène Darly a trois reprises à prononcer le mot famille. Est-ce qu'on peut dire que, à l'échelle du monde, s'il y a bien quelque chose qui rapproche ou qu'on en partage tous les ruraux, et peut-être encore plus spécifiquement tous les agriculteurs du monde, quelles que soient leurs conditions et le continent ou le pays dans lequel ils habitent, c'est pas justement l'importance de la famille, à la fois dans l'anthropologie et dans l'économie des ruraux?
Oui, mais c'est-à-dire que la famille joue un grand rôle parce que souvent le travail à la campagne est familial au sein de l'exploitation. Alors, chez les agriculteurs, au sein de l'exploitation agricole, il est clair que le travail est souvent familial, c'est-à-dire que c'est le père qui est chef d'exploitation, sa femme l'aide et puis les enfants aussi. Et ça, c'est un modèle qu'on va... C'est l'agriculture familiale qui est une forme d'agriculture dominante à l'échelle du monde, et qu'on va retrouver dans beaucoup d'endroits. Alors maintenant, après, ça dépend aussi ce qu'on met derrière le mot famille. Est-ce que c'est la famille nucléaire, telle qu'on l'entend
Le foyer, quoi.
Le foyer.
Les parents et
comme
les enfants.
Comme on trouve dans beaucoup de cas en Afrique, une famille élargie, ce qui correspond en gros au lignage, c'est-à-dire les descendants d'un ancêtre commun, mais qui est assez éloigné. Donc vous allez avoir une famille qui fait 20, 30, 40 personnes, voire beaucoup plus.
Ça ne fait pas un village, ça ?
Qui peut faire un village, éventuellement. Et donc, vous avez des liens familiaux. Les gens, par exemple, de la même génération, s'appellent tous frères. Enfin, donc, vous avez une parenté classificatoire, qui n'est pas seulement une parenté biologique. Et donc, là, on va avoir une organisation de la famille et un sens de la famille qui est différent, mais qui joue aussi un grand rôle, notamment parce que dans ces familles, du coup, vous avez le déploiement de stratégies qui peuvent être complexes. Vous avez une partie de la famille qui vit à la campagne, une partie qui est en ville, avec des liens très forts. C'est le cas notamment en Côte d'Ivoire. Vous avez souvent les parents qui sont au village, vous avez des enfants ou des frères qui sont à la ville, et vous avez des liens très forts entre les uns et les autres, ce qui explique ce que je disais tout à l'heure, et c'est différent des néo-ruraux, que ces anciens ruraux reviennent ensuite dans leur village, mais au sein de leur famille. Et puis, les ruraux vont aider les parents à la ville, notamment sous forme d'envoi de vivres, et ceux qui sont à la ville vont envoyer de l'argent sous forme... on va envoyer de l'argent pour aider les gens à rester à la campagne.
Donc pourquoi est-ce que les gens restaient à la campagne? Vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, mais peut-être que c'est le cas dans tous les pays d'Afrique subsaharienne, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que les gens restés à la campagne ont besoin que ceux partis en ville leur envoient de l'argent? Qu'est-ce que ça dit sur le vivre à la campagne dans les pays d'Afrique subsaharienne, Jean-Michel Aire?
Ça dit qu'en moyenne, le niveau de vie est plus élevé en ville qu'à la campagne, et que les opportunités d'emploi sont supérieures en ville à celles de la campagne, de façon globale. Étant entendu que vous avez des riches et des pauvres en ville, que la majorité des villes africaines, alors ce sont des gens pauvres et très pauvres, et que vous avez aussi des inégalités qui peuvent être fortes à la campagne. Mais dans le sud de la Côte d'Ivoire, par exemple, le rêve de tous les petits planteurs de café-cacao pendant très longtemps, leur stratégie, c'était d'envoyer les enfants à l'école pour qu'ils aillent en ville, pour qu'ils deviennent fonctionnaires. Et ainsi, ils ont de l'argent, un salaire fixe tous les mois, et ils peuvent envoyer de l'argent à la famille, et ils n'ont pas de problème financier comme les ruraux, comme les agriculteurs, qui ne touchent de l'argent qu'au moment où ils vendent leurs produits, c'est-à-dire une fois par an, et qui sont très dépendants du climat et des prix. Donc, de ce point de vue, vous avez une grosse différence. Après, vous avez aussi d'autres différences. Il est évident que dans les pays du Sahel, l'agriculture est très pauvre et permet de survivre, mais elle ne permet pas, sur exception, d'accumuler des richesses.
Pouvez-vous expliciter cette évidence, Jean-Luc Scheller? Pourquoi c'est en raison, pour les raisons climatiques?
C'est pour des raisons climatiques, notamment le fait que...
Pays du Sahel, donc.
Dans les pays du Sahel.
Mauritanie, Mali, Niger.
Oui, Burkina, même le Sénégal. C'est-à-dire qu'on est dans des pays où on est en limite de l'agriculture pluviale, avec des variations climatiques fortes, ont des très grandes conséquences sur la production agricole annuelle. Ce sont des régions aussi où vous avez eu une forte croissance démographique, ce qui crée une pression sur les ressources, sur la terre, sur l'eau, et ce qui fragilise les exploitations agricoles. Et donc, on est dans un milieu très fragile. S'y ajoute le fait que souvent, les voies de communication ne sont pas très bonnes. Donc, en cas de mauvaise récolte, l'aide est difficile à arriver. Ce sont des populations qui sont souvent isolées et donc qui ont des conditions relativement plus difficiles que celles de la ville. Si on prend ces régions, des régions mieux loties, plus humides, comme le sud de la Côte d'Ivoire, je vous l'ai dit, les conditions sont d'autres raisons.
Et alors si on prend des régions encore plus humides et surtout beaucoup plus densément peuplées, qui font partie des mondes pleins traditionnels, je pense à l'Asie du Sud, à l'Asie du Sud-Est, à la Chine de l'Est, là du coup, est-ce que les campagne, ou est-ce que vivre à la campagne, c'est vivre en étant moins pauvre, si je peux me permettre de telles généralités?
Alors, pour celles que je connais, c'est un monde un peu compliqué. Donc, il faut revenir sur les densités. Ce sont des zones exceptionnellement denses, c'est-à-dire...
Alors, celles que vous connaissez, c'est donc
Celles que je connais, ou plus ou moins, par exemple, Bali, en Indonésie. C'est la région de Shanghai, dans le centre est de la Chine. Mais je pourrais citer aussi certaines régions de l'Inde ou le delta du fleuve Rouge au Vietnam, où on a des densités très fortes de plus de 500 habitants au kilomètre carré. Mais les gens vivent parce qu'ils ont une agriculture qui est très productive, parce qu'on n'est pas très éloigné des villes, et parce que vous avez très souvent aussi un développement d'autres activités qui ne sont pas des activités agricole, ce dont on parlait au début. Par exemple, dans le delta du fleuve Rouge, autour d'Hanoï, au Vietnam, vous avez des densités rurales qui sont très élevées, plusieurs centaines d'habitants au kilomètre carré, mais vous avez ce qu'on appelle des villages de métiers, c'est-à-dire que dans ces villages, vous avez des ateliers ou des usines, selon les cas, qui fabriquent différentes choses, souvent des meubles, des choses comme ça, et donc qui travaillent pour la ville, et ce sont ces revenus qui permettent aux gens de vivre à la campagne. Il y a un certain niveau, ce n'est plus que l'agriculture. C'est une configuration qu'on trouve très souvent en Asie, Il y a un collègue américain qui a appelé ça, d'un mot indonésien, Desakota, ça veut dire village-ville. Hein. Et en fait, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des espaces qui sont des espaces ruraux-urbains, où il y a beaucoup de relations entre ville et campagne, et où donc on a des très grandes densités de populations rurales, mais qui vivent en partie en très forte symbiose avec la ville et avec d'autres des activités qui autrefois étaient dans les pays du Sud exclusivement urbaines.
Sur ces relations ville-campagne, je vous propose qu'on continue nos allers-retours entre les pays du Sud et les pays des Nords. Ségolène Darly, vous avez travaillé, enquêté sur les moutons dans la ville. Hein. Il y a même un article très, très stimulant que vous avez publié. Des moutons dans la ville, quelles externalités environnementales des pratiques d'élevage ovin en milieu urbain? Et oui, nous sommes bien dans une des émissions de Culture Science. Et figurez-vous, Ségolène Darly, que Sophie Bobert, qui a l'amitié de bien vouloir de temps en temps réaliser un reportage pour Planète Terre, est partie. Elle était mardi dernier à Fleury-Mérogis et elle a rencontré Sylvain Girard, que vous avez rencontré vous aussi, Ségolène Darly. Sylvain Girard, qui est le fondateur de l'entreprise Eco-Mouton, qui propose aux entreprises de remplacer les tondeuses par des moutons. Écoutons Sylvain Girard au micro de Sophie Bobert.
Alors ici, nous sommes dans un hôpital à Fleury-Mérogis, l'hôpital Manès, qui est dédié aux handicaps légers, mentaux, mais aussi on peut trouver une maison de retraite médicalisée.
Et alors devant nous, devant ce bâtiment, une grande étendue d'herbe et une dizaine de moutons.
C'est vrai que cet hôpital est un peu atypique parce qu'on est ici avec un côté sociétal fort, mais la moitié de notre clientèle, ce sont des bâtiments industriels et logistiques où souvent les directeurs de ces sites, directeurs et directrices d'ailleurs, nous font venir pour changer l'environnement de leur travail. Donc on a bien sûr un aspect technique et financier qui les intéresse. On fait le travail de tonte. On est moins cher en général que la tonte mécanique, ce qui est un de nos moteurs aussi.
Cher et plus écolo.
Et plus écolo, mais c'est d'abord les volontés de gens qui veulent changer les choses qui nous font venir chez eux.
Ça fait combien de temps, Sylvain Girard, qu'elle existe, votre société Eco-Mouton ?
Ça fait bientôt 4 ans.
Et en 4 ans, déjà 1000 moutons en région parisienne, c'est ça ?
Oui, exactement. Et bon, quasiment, oui, un site chaque semaine.
C'est considérable, un site par semaine.
Oui, on pourrait faire mieux, mais bon, pour l'instant...
L'ouverture
d'un site un nouveau site par semaine, c'est important. C'est aussi une nouvelle personne qui vient, qui fait l'effort de mettre des moutons chaque semaine. Donc c'est assez important, quoi.
Et avez-vous parfois des appels de particuliers qui achètent des maisons en région parisienne ou des néo-ruraux qui seraient séduits par cette idée de remplacer la tondeuse par le mouton ?
Oui, tout à fait. Nous avons régulièrement sur notre site des demandes de particuliers. Alors pour l'instant, on n'est pas encore prêts, nous, à le faire, parce que ça demande un maillage du territoire assez important, donc en nombre d'hébergés. Et pour l'instant, le nombre de demandes ne nous le permet pas. Mais on va pouvoir le proposer d'ici un an ou deux, à l'intérieur des zones où nous sommes déjà présents pour des entreprises. Nous allons pouvoir prendre les particuliers qui seraient sur leur chemin et donc leur offrir des offres financières qui soient acceptables pour elles. Pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt. On a besoin d'asseoir notre entreprise sur des grandes surfaces, des gros budgets pour pouvoir payer nos bergers correctement.
Ils sont combien, ces néo-ruraux, à venir vers vous, à vous contacter chaque mois ?
Je dirais 2-3 par semaine.
À 2-3 par semaine.
Oui, tout à fait.
Alors, Ségolène Darly, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de portée générale sur la vie à la campagne ou sur le lien, la symbiose, disait Jean-Louis Chaléard en parlant du Vietnam, l'éventuelle symbiose entre la ville et la campagne. Bon, là, on est en Île-de-France.
Oui, là, justement, on n'est pas vraiment à la campagne, c'est plutôt...
C'est la campagne qui rentre dans la ville.
C'est l'agriculture qui rentre dans la ville, oui. Ça, c'est certain. Bon, c'est intéressant ce reportage, parce que ça illustre que on a une vision de la ville très minérale. Notamment en Île-de-France, parce qu'on prend souvent la référence de Paris intramuros, qui est effectivement très minéral. Mais en fait, dès qu'on s'éloigne un peu...
Par minéral, vous voulez dire que...
Il n'y a pas beaucoup d'herbes, quoi. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de végétaux, il n'y a pas beaucoup de terre à nu. Hein. C'est très souvent imperméabilisé et minéralisé, donc. Mais dès qu'on s'éloigne un peu, sans forcément se retrouver dans la campagne, on a très vite des espaces ouverts, des espaces non bâtis, avec du sol pleine terre, donc de l'herbe, et de fait, des ressources pour des activités agricoles, là en l'occurrence des activités d'élevage, et donc certains exploitants, là en l'occurrence c'est des paysagistes, mais parfois ça peut être vraiment des exploitants agricoles, vont valoriser ces ressources. Alors, ce qui est, en fait, dans le l'éco-pâturage urbain, il y a différents modèles. Alors, il y a un modèle qui va chercher à être vraiment totalement urbain, avoir une bergerie dans la ville et consommer, enfin trouver son alimentation essentiellement en ville.
Vous, votre enquête vous a amené jusqu'à aller dans une bergerie des Francs-Moisins en pleine Seine-Saint-Denis.
Exactement. Quoi, hein. Mais il y a d'autres modèles aussi où là on a une coopération avec l'espace rural qui est juste à côté. Et c'est vrai que dans la banlieue nord de Paris, on est très vite dans l'espace rural, où en fait la bergerie, là où on va rassembler les moutons pour les traitements, pour les agnelages, etc., va quand même être localisée en zone rurale, parce que c'est quand même là où il y a de la place, c'est là où on a accès à du foncier pour les bâtiments, parce qu'avoir accès aux bâtiments en ville, c'est très compliqué. Or, en agriculture, l'accès à des bâtiments, c'est quelque chose de fondamental. Donc, l'activité agricole, elle est quand même plus à l'aise à la campagne, pour des questions d'accès au foncier. Mais quand on n'arrive pas à avoir accès au foncier, bah c'est vrai que si on se retourne en ville, on se rend compte qu'il y a des ressources qui sont souvent pas revendiquées pour ces usages-là.
Alors, écoutons la fin du reportage de Sophie Bobert pour entendre ce que Sylvain Girard raconte un peu sur ce qui l'a motivé, lui, dans sa trajectoire.
Donc là, en effet, ce sont des moutons d'Ouessant qui sont toute l'année dehors sur le site. Mmh.
Oui, ils sont là, ils pèsent sous la pluie, là. Hein.
Ils ne font aucun bruit, je suis désolé pour l'aspect radiophonique de la chose, mais ils sont très très calmes, en fait, ils sont très discrets.
Tout petits et très discrets.
Voilà, ils font 50 cm de haut. En plus, on a, alors, cerise sur le gâteau, c'était une race en voie de disparition, qui était soutenue, quand j'ai commencé, qui était soutenue par le, qui est toujours d'ailleurs, hein, par le groupement des éleveurs de moutons d'Ouessant, qui a tout fait pour perpétuer cette race. Et là, en l'occurrence, en utilisant nous cette race pour de l'éco-pâturage, eh bien, on lui a donné un métier. Et ce faisant, nous avons aidé, en tout cas, nous aidons à sa survie.
Mmh. Ils ont l'air bien, là.
Ils n'ont besoin de rien, de l'herbe, des petits coins tranquilles pour se mettre à l'ombre, à l'abri de la pluie, et surtout que les humains les laissent tranquilles, et tout se passe bien.
Et pour vous, Sylvain Girard, comment est-ce qu'elle a commencé cette histoire, hein, de moutons ? Vous n'êtes pas un gars de la campagne au départ, hein ? Vous viviez dans le Val d'Oise, vous étiez cadre, hein ?
Oui, en effet, j'étais cadre dans une grande entreprise. Je crois que comme beaucoup de personnes entre 40 et 50, quand on a réussi sa carrière, on n'a plus rien à montrer à personne. On a le droit de se faire plaisir et c'est ce que j'ai voulu faire en ce qui me concerne. Se faire plaisir, ça a été de faire une activité qui me plaisait sans me soucier du qu'en dira-t-on.
Et vous-même, dans votre vie personnelle, vous avez quitté le Val d'Oise pour vous installer dans un village de Seine-et-Marne, hein, c'est ça ?
Oui, c'était un choix. De toute façon, je voulais plutôt être à la campagne. Même si je me sens très bien en ville et que j'y suis, je crois que je passe 2-3 jours par semaine quasiment en grande ville, à Paris ou autre, Bordeaux, Lyon, etc. Donc j'aime bien aussi la ville. Mais pour mon environnement personnel, je préfère la campagne.
Bon, là, en tous les cas, Ségolène Darly et Jean-Louis Chalère, on est loin de ce qu'on évoquait tout à l'heure comme un fait majoritaire, à savoir la place de la famille et de la tradition familiale dans l'exploitation et même dans la vie à la campagne. Mais du coup, ça suscite pour moi une question qui, je crois, est très importante dans l'ensemble du monde rural, quel que soit le continent, la région ou le pays. C'est la question, finalement, de la propriété de l'exploitation, du statut de l'exploitant par rapport à son outil de production. Parce qu'une des choses qui m'a frappé, là, et j'ai trouvé l'info dans un livre de la documentation française, dans la collection Études, qui s'appelle « La question agricole mondiale », ouvrage dirigé par deux agronomes, et dans lequel, Jean-Louis Chalère, vous avez commis les deux premiers articles. Ce qui est très frappant, c'est comment, au fur et à mesure que la population rurale augmente, notamment dans les pays du Sud, vous l'avez dit tout à l'heure, cette augmentation se fait plus vite que la croissance des terres cultivées. Et puis surtout, elle va de pair avec une rétraction très impressionnante de la superficie moyenne de l'exploitation agricole. Comme si aujourd'hui, maintenant, les gens, enfin, vous donnez des chiffres sur l'Inde, sur la Chine en particulier, ou sur l'Afrique subsaharienne, On en est à peine plus d'un hectare de superficie moyenne par exploitation. Dans l'Union européenne, c'est 5 hectares, c'est rien du tout. Qu'est-ce que ça dit de la condition, je ne sais pas s'il faut dire paysanne ou rurale dans le monde aujourd'hui, Jean-Louis Chalère ?
Oui, bon, deux remarques préalables. Je pense que partout là, dans le monde, pour les agriculteurs, la question de la terre, de l'usage de la terre, de l'utilisation de la terre est fondamentale. C'est la base de l'outil de travail en agriculture. Maintenant, dans les pays du Sud, il y a un problème qui prend différentes formes, mais qui est partout très prégnant. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, la question des superficies qui sont très petites par actif. Et puis, la question de l'accès à la terre, alors qui prend des formes très différentes, en ce sens que en Asie, il y a des densités tellement énormes que c'est difficile d'avoir beaucoup de terre pour chaque exploitant. En Amérique latine, on est revenu depuis... Alors, il y a eu toute une période de réformes agraires où on a voulu faire disparaître les grandes propriétés pour les donner aux paysans sans terre. Mais depuis les années 90 ou 80, selon les pays, vous avez un retour à la grande exploitation. C'est ce qu'on appelle la modernisation conservatrice, où ce sont des anciens grands propriétaires ou des grandes sociétés internationales qui prennent les terres maintenant pour les cultiver. Du coup, les petits exploitants ont très peu de terres. Et en Afrique, c'est la croissance démographique en partie, et puis les accaparements fonciers par des grandes sociétés étrangères qui créent un problème de la terre, qui fait que partout, pratiquement partout dans les pays du Sud, la question fondamentale, c'est celle de l'accès à la terre, les agriculteurs ayant des superficies trop petites pour pouvoir vivre décemment.
Vous avez mentionné, Jean-Louis Chalère, l'importance, dans le dernier quart du XXe siècle, des réformes agraires. Et dans cet ouvrage, La question agricole mondiale, paru à la Documentation française dans la collection Études, vous dites qu'il n'y a que deux pays, selon vous, où ça a marché, Taïwan et la Corée du Sud. Pourquoi que deux et pourquoi ces deux-là ?
Alors, ça risque d'être très long. En schématisant.
Voilà, il faut schématiser parce qu'il faut pas que vous soyez très
en schématisant,
s'il vous plaît.
Ces pays ont commencé leur réforme agraire après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été poussés par les États-Unis parce que c'était un moyen de lutter contre l'avancée du communisme en Asie. Donc, ils ont eu quand même cet avantage d'avoir derrière eux quand même le poids du financier américain. Deuxièmement, ils ont été capables, notamment par exemple à Taïwan, on a pris des mesures qui ont redistribué la terre, qui ont eu l'avantage de permettre le développement d'une petite agriculture intensive, qui a été très vite liée à l'industrie. C'est-à-dire que vous avez eu un développement de l'industrie et de l'agriculture qui ont été de pair, en ce sens que donner la terre aux petits paysans, ça faisait des gens qui pouvaient acheter les produits industriels, mais en même temps, ils achetaient parce qu'ils avaient besoin d'engrais, de différents produits. Et du coup, ça a permis un développement industriel qui, à son tour, a permis le développement de l'agriculture. C'est entre autres pour cette raison qu'on a eu un changement avec un système autrefois où vous aviez des grands propriétaires qui prenaient à leur métier jusqu'à deux tiers de la récolte, c'est-à-dire qu'on est des entrepôts, à des petits exploitants qui ont pu faire fructifier leurs terres. Donc, ces réformes très rapides, assez radicales, précoces, soutenu par les États-Unis et lié aussi à un développement de l'industrie, font que ça a été un succès. Ça a été beaucoup moins le cas en Inde, par exemple, où ça a réussi dans certaines régions, mais souvent aussi, vous avez eu des oppositions des notables contre les réformes agraires, qui ont été souvent détournées. En Amérique latine, ça a été aussi très souvent, pas partout, mais très souvent détourné, c'est-à-dire qu'on a limité la propriété, mais vous aviez des partages fictifs. Si on limitait à 1000 hectares, vous aviez le père, trois enfants, deux prête-noms qui avaient chacun 1000 hectares, si bien que ça empêchait en réalité l'accès à la terre des petits paysans. Et surtout, en plus, il n'y avait pas d'accompagnement, c'est-à-dire que ces petits paysans, on leur donnait la terre, mais on ne leur donnait pas les moyens qui vont avec, c'est-à-dire les machines, les engrais, enfin tout ce qui permet de cultiver.
Du coup, j'en reviens à une de mes questions qui m'ont servi de cadre. tels que j'ai pu vous les proposer tout à fait au début de cette émission. Est-ce que vous diriez que entre les ruraux des pays en voie de développement d'une part, des pays émergents d'autre part, et des pays anciennement industrialisés d'autre part, il y a plutôt plus de différences ou plus de points communs, Ségolène Darly?
Oui, alors c'est... c'est pas évident de répondre à cette question. C'est vrai qu'au premier abord, il y a des différences très très grandes. Hein. La chose qui saute aux yeux, c'est qu'on est sur des systèmes extrêmement différents, des exploitations très moto-mécanisées, sur lesquelles il y a eu du soutien public, des protections de marché de la part des États dans les pays anciennement industrialisés. On retrouve un peu ces modèles-là, mais encore plus poussés, c'est-à-dire qu'en Europe, aux États-Unis, on a encore des systèmes familiaux, même s'ils se sont modernisés. Dans certains pays émergents comme le Brésil, par exemple, qui a totalement libéralisé son marché agricole, là, on a des systèmes familiaux très petits et des systèmes d'agriculture de firme où on s'éloigne beaucoup du modèle familial. Bien sûr, c'est les petites agricultures, très petites agricultures familiales avec des superficies qui se rétrécissent. Alors, qui se rétrécissent soit parce que sous l'effet du morcellement lié aux héritages, on dit en Inde, l'accroissement de la population, de fait, mécaniquement, va faire diminuer la superficie par exploitant, par travailleur agricole. Mais ou alors parce qu'il y a de plus en plus de grandes exploitations. Donc il y a les deux phénomènes. Le fait qu'il y a de moins en moins d'espace pour les petits, parce que les grands prennent de plus en plus de place. Donc c'est vrai qu'il y a ces grand facteur de différenciation, enfin ce qui saute aux yeux quand on se pose la question. Je pense que vous mettiez le doigt sur quelque chose d'important. Je pense que ce qui traverse tous ces pays et ce qui fait un peu le ciment de grandes mobilisations internationales, paysannes ou d'agriculteurs, c'est cette volonté de réaffirmer le modèle familial au sens où le travailleur agricole maîtrise son capital de production parce que c'est son patrimoine familial. Et donc ça, c'est un peu un fil rouge qu'on retrouve quand même dans toutes les campagnes. En Europe, même si c'est pas du tout les mêmes modèles, mais on a quand même cette idée de l'exploitation moyenne, plutôt entre 5 et 50 hectares, mais qui resterait familiale parce qu'à ce moment-là, l'exploitant maîtrise son outil de production. Et finalement, c'est la même revendication des producteurs sans terre qui, eux, veulent la propriété de leur outil de production et d'exploitants, de petits exploitants qui vont conserver leur capital foncier pour ne pas devenir justement des salariés agricoles, pour conserver la maîtrise du capital de production. Et ça, je pense que effectivement, c'est peut-être un fil rouge qu'on retrouve dans toutes les campagnes.
Et alors, est-ce que dans ce fil rouge, il y a une différenciation qui peut être introduite si on considère la place des femmes et les rapports de genre? Parce qu'après tout, qui dit importance, disons, de l'exploitation familiale, spontanément, tout à l'heure, Jean-Louis Chalard, vous avez dit, et bien souvent, le chef d'exploitation, c'est l'homme, etc., etc. Alors, est-ce que du coup, on peut dire, ah bon, bah alors, là, s'il y a bien un point de conservatisme dans les campagnes, parce qu'à tort ou à raison, on associe dans certaines représentations, dans des clichés en tous les cas, on peut associer sans doute à tort les campagnes au conservatisme. Est-ce que là, on a un point de conservatisme et de différenciation entre les pays du Sud et les pays du Nord? Ou est-ce que vous avez l'impression, l'un et l'autre, que les rapports de genre évoluent là aussi très fortement dans les campagnes?
Je pense que effectivement le fait que les sphères domestiques et productives soient très liées dans ces modèles familiaux, ça implique que les rapports sociaux de domination, les rapports de domination sociale, notamment envers les femmes, envers les jeunes, ont une dimension domestique. Et donc, pour les régler, il faut rentrer dans le fonctionnement familial de l'exploitation. Ça, je pense que c'est transversal à toutes les campagnes. Aussi dans les campagnes du Nord. On a très tardivement en France, en Europe et en France en particulier, pris en compte le travail féminin et reconnu le travail féminin, reconnu la place d'associé que pouvait avoir une femme. L'étendue de la couverture sociale pour les conjointes agricole, c'est 2006 en France. L'autorisation de s'associer à son mari en GAEC, parce qu'avant on ne pouvait pas GAEC. Avoir en association hein, entre producteurs, ne pouvait pas se faire entre des époux jusqu'à 2011. Donc ça se faisait entre le père et le fils. Donc on a des...
Ça pouvait être néanmoins entre le père et la fille.
Oui, tout de même. Mais la dimension domestique des rapports sociaux de domination, je pense qu'effectivement, elle vient avec ce modèle familial. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le modèle familial pour traiter ce problème. Ça veut dire qu'il faut effectivement poser les questions de la répartition du travail au sein des familles. Ça se fait par des mouvements d'agricultrices. Depuis les années 70. C'est traité par les scientifiques de façon beaucoup plus récente, et notamment dans la littérature francophone. Il y en a. C'est en émergence. Mais oui, je pense que c'est quelque chose de transversal qui fédère des mobilisations à l'échelle internationale.
Internationale. Oui. Donc, Jean-Louis Chalère, par exemple, en Côte d'Ivoire, que vous connaissez bien, vous avez déjà pu voir de temps en temps la trace de ces mobilisations internationales sur une meilleure reconnaissance de la place des femmes dans l'agriculture ou dans les campagnes.
Je l'ai vu, mais pour le moment, ça a relativement peu de poids. La plupart c'est très significatif, la plupart des grandes opérations de développement, d'aide au développement à la campagne se sont adressées pendant très longtemps aux chefs d'exploitation masculins. Et donc, les femmes étaient éliminées de fait de ces opérations. C'est que depuis quelques années que maintenant, on prend en compte les femmes dans le développement. Alors vous avez aussi des associations locales de femmes qui ont beaucoup joué pour leur émancipation dans les campagnes, alors qui sont liées parfois aux partis au pouvoir, ça arrive, mais qui jouent quand même un rôle non négligeable dans des tentatives d'émancipation des femmes.
Mais à quel pays pensez-vous là ?
Ben je parlais de la Côte d'Ivoire. Vous avez l'association des femmes de Côte d'Ivoire qui a des représentants dans tous les villages. Bon. Et qui peut avoir un rôle important. Alors, globalement, dans ce type de pays, la Côte d'Ivoire et aussi d'autres pays voisins, il faut bien voir que l'évolution depuis la colonisation a été dans un sens défavorable aux femmes, en ce sens que le développement de l'agriculture commerciale, par exemple le cacao en Côte d'Ivoire, a été le fait des hommes. Et donc, c'est eux qui ont touché les revenus. La femme travaille sur la plantation, fait les travaux ménagers, et puis le mari, à la fin de l'année, il lui donne un petit pourboire. Donc, il y a une totale dépendance. C'est en train, en partie, d'évoluer avec l'évolution, curieusement, des systèmes de culture. C'est-à-dire que de plus en plus, avec les villes, vous avez un marché qui est un marché de produits alimentaires.
C'est-à-dire
Par exemple, à Abidjan, le manioc est très consommé, la banane plantain, l'igname, des produits locaux. Donc, ils sont produits localement. Et qui produit localement de ces productions, ce sont les femmes. Donc du coup, elles sont réintroduites dans l'économie marchande dont les avait exclues l'économie de plantation. Ça, c'est un phénomène qui aussi leur permet d'avoir une certaine indépendance parce que dans les campagnes, souvent en Afrique, et c'est le cas en Côte d'Ivoire, le budget de la femme et le budget de l'époux sont séparés. Chacun a son budget individuel. Donc ça permet aux femmes d'avoir de l'argent et ça leur permet occasionnellement aussi, quand les prix agricoles pour les produits d'exportation sont très bas, de relayer l'époux, notamment par exemple pour les coûts de scolarisation des enfants. Pour le moment, c'est un phénomène qui est encore trop récent et pas assez important pour que ça ait changé durablement les rapports au sein des couples. Mais il est certain que cette prise d'autonomie dans certains cas des femmes peut avoir un rôle très, très important. Notamment, vous avez aussi beaucoup de femmes qui font le commerce des produits vivriers et donc qui là aussi gagnent de l'argent. C'est en train de changer un tout petit peu les choses.
Bon, eh ben, on va en rester sur cette évocation prospective et ce changement qui peut-être, si je vous entends bien, introduit par l'évolution des rapports de genre dans les campagnes du monde entier, finalement. Ségolène Darly, Jean-Louis Chalère, merci beaucoup pour vos précieux éclairages. L'émission, en effet,
est arrivé à son terme. Je précise que les liens vers vos sites internet et vos publications sont accessibles depuis la page Planète Terre sur France Culture. C'est Sophie Bobert qui a réalisé le reportage auprès de Sylvain Girard, fondateur de l'entreprise Eco Mouton, qu'on a entendu au cours de l'émission en Ile-de-France, à Fleury-Mérogis en particulier. Planète Terre, c'est donc fini pour cette semaine et c'était Vivre à la campagne dans le monde d'aujourd'hui. Alors je précise que les deux derniers Planète Terre de l'année 2015 évoqueront successivement ce que le GPS doit à Einstein et à la théorie de la relativité, puis, tout à fait fin décembre, l'aventure au XXIe siècle. Et je vous dis ça notamment parce que en 2016, à partir de la première semaine de janvier, Planète Terre étrennera un nouvel horaire. Elle sera toujours diffusée le mercredi, mais de 16h à 16h56, comme les 5 émissions de la tranche Culture Science. Donc toutes les émissions de Culture Science à partir de la première semaine de janvier, dont Planète Terre, seront diffusées de 16h à 16h56. Luc-Jean Reynaud, Emmanuel Morse-Duncan, Catherine Madure et la documentation sonore nous ont accompagnés en régie et pour la préparation de cette émission. Émission que, comme les précédentes, est en ligne 1000 jours et en podcast 1 an. Retrouvez-la et retrouvez-les sur le site web de France Culture. Vous pouvez par ailleurs les suivre et les commenter en postant vos messages sur la page planétaire de France Culture ou sur mon compte Facebook ou sur mon compte Twitter.